Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une lecture. Et le mot qui me vient là, c'est aigre douce, cette lecture. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous avez ressenti.
Bittersweet.
Oui, alors ben voilà, il faut utiliser l'anglais ou l'américain hein, pour parler des chroniques de San Francisco. D'après les romans d'Armistead Maupin, je pense que c'est à peu près comme ça que ça se prononce, un écrivain donc que nous découvrons ici désormais en bande dessinée. On va vous donner un petit peu plus d'explications, puisque c'est une adaptation qui est faite par Isabelle Botian et Sandrine Revel chez Steinkiss. Pour ma part, j'ai l'impression de ne pas avoir vu déjà ce genre de lecture chez cet éditeur-là, qui est un éditeur que je qualifierais d'engagé. Reste à savoir comment on peut être, ou comment on est tout court, engagé, hein, quand on partage quelque chose. Alors, Sandrine Revel, c'est une autrice que nous avions déjà vue précédemment, parce que nous avions beaucoup apprécié son Glenn Gould.
Oui, c'est une autrice très présente sur le front de l'édition jeunesse, édition jeunesse, édition adulte, mais c'est vrai qu'on avait chroniqué le Gould, qui esthétiquement a peu à voir, qui était très réussi, qui était aussi une chronique de personnages hors normes. Pour des passionnés de musique comme nous, c'était très agréable de voir quelqu'un qui comprenait le destin d'un si singulier artiste.
Puisque vous évoquez la musique, Thierry, moi, quand on parle de San Francisco, il y a automatiquement une chanson qui me vient à l'esprit. Mais là, on est un petit peu après La Maison Bleue dans cette histoire.
C'est les romans d'Armistead Maupin sont situés à un moment très précis. On est au mi-temps des années 70. Alors, on est donc bien après la vague hippie, la contestation sociale, le flower power, le summer of love, en fait, toutes ces expressions qui appelaient un renouvellement complet de la société, la libération des sens, l'usage de substances plus ou moins licites, enfin non, très illicites. Et on est avant les années SIDA.
Avant les années 80, quoi.
Les années 80, voilà. Les années SIDA, c'est un peu réducteur hein, de dire ça. Les années SIDA pour la communauté, pour aller vite, la communauté qui est mise en lumière dans les romans d'Armistead Maupin. Alors, Armistead Maupin, c'est quelqu'un qui a un certain âge maintenant, qui a plus de 70 ans. C'est quelqu'un qui est un militant de la cause gay, qui est marié avec un monsieur. Les revendications de certaines minorités, notamment ce qui concerne l'orientation sexuelle, peuvent être faites d'une façon très agressive, presque violente de nos jours. Il y a un côté bienveillant dans sa façon de raconter cette période et puis de faire vivre ces personnages, qui est en parfaite adéquation avec le dessin de Sandrine Revel, qui est d'une grande douceur. C'est vraiment une parenthèse où on voit des personnages vivre une vie très quotidienne et chercher ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire le bonheur, l'amour, un boulot, des amis, des sentiments. Il n'y a pas de revendication agressive et trop péremptoire, je trouve. Et
puis je dirais qu'il y a un regard aussi lucide de l'auteur par rapport à tout cela.
Alors après, comme on le disait en préparant l'émission, c'est le premier des romans d'Armistead Maupin, parce qu'il y en a un certain nombre, parlons d'une dizaine. Et plus on va se rapprocher des années 80, plus le récit va prendre un tournant dramatique, parce qu'il y aura des morts, des séparations, des crises, un climat général qui va se plomber petit à petit. Là, on est encore dans la découverte, comme le personnage principal de Marianne Singleton découvre une ville mythique, elle qui vient de Cleveland, alors Cleveland qui est une petite ville très froide.
Donc elle vient du nord-est, on va dire à peu
voilà,
près.
Voilà, nord-est des États-Unis.
Pour aller vers le sud-ouest.
Et elle arrive dans San Francisco, qui est une ville baignée de soleil. Enfin bon, si je commence à parler de San Francisco, je vais tomber dans les clichés, donc j'arrête. Soit dit en passant, comme à Cleveland, ils ont un excellent orchestre symphonique.
Ça, c'est pour les amateurs de musique.
Voilà, ouais. Dirigé depuis 25 ans, si je ne m'abuse, par Michael Tinson Thomas, aussi un militant de la cause gay, marié, un monsieur, etc. Bon, c'est un aparté.
Vous insistez.
J'aime beaucoup l'orchestre symphonique de San Francisco, dirigé par Michael Tinson Thomas.
Il y a un choc des cultures entre cette Marianne.
Oui, d'ailleurs, on la regarde avec bienveillance, mais aussi peut-être une pointe de condescendance, jusque dans sa façon de s'habiller. C'est un peu une plouque, si on peut pardonner cette expression un peu triviale.
Une fille de bonne famille, peut-être.
Voilà, bien rangée. Elle va trouver du travail dans une agence de publicité. Elle va trouver à être hébergée dans une pension de famille où celle qui s'occupe de cette pension souhaite la bienvenue à ses pensionnaires en leur offrant une cigarette de marijuana qu'elle cultive elle-même dans son jardin. C'est bio, hein. C'est 100% local et naturel.
Mais ça n'inspire pas vraiment Marianne.
Non, c'est pas ce qu'elle cherche. Et on va voir ces personnages faire des rencontres, déambuler, passer de l'un à l'autre. Mais toujours avec, je le disais, avec bienveillance, avec tendresse, et puis avec... je ne vais pas dévoiler, il y a des personnages qui sont beaucoup plus noirs les uns que les autres, ou qui ont déjà un destin plus sombre, mais toujours avec empathie.
Et cette empathie se développe tout au long de ces récits, c'est un récit choral en fait, hein, parce que tout s'entrecroise, s'entremêle, oui, je ne rentre pas trop dans les détails.
C'est comme dans tous les bons feuilletons, dans tous les soap-opéras, tout le monde est lié, tout le monde se connaît, à croire que San Francisco c'est un quartier, mais c'est vrai qu'il y a une vie de quartier. Tous ces gens-là se connaissent, s'apprécient, se soutiennent, se trahissent, non ils vont se trahir après.
Mais ils se trahissent tout en ayant une certaine bienveillance les uns envers les autres, comme les auteurs d'ailleurs ont de la bienveillance vis-à-vis de leurs personnages ici.
Oui, c'est ce qui nous a frappé dans cette adaptation, c'est le regard porté qui est d'une grande subtilité, d'une finesse de traits, de caractérisation qui sont très réconfortantes. Je vous le dis, on n'est pas dans le cliché du tout.
L'atmosphère, du coup, est très particulière. Et moi, je me suis permis de faire, comme ça m'arrive assez souvent, j'essaie de comprendre ce qui nous rapproche de cette époque-là ou ce qui peut ressembler entre ce qui se passait à la fin des années 70 et aujourd'hui. On assiste là quand même à la vie de toute une série de personnes qui sont un petit peu paumées, hein, qui, comme vous le disiez, sont à la recherche de l'amour, mais ont toutes les peines du monde à le trouver. Je me dis qu'il y avait aussi une forme d'utopie qui existait, en tout cas dans les années qui ont précédé celles qui nous sont décrites ici. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre monde, même s'il a beaucoup changé, il est toujours construit sur des bases similaires. Qu'en pensez-vous, Thierry ?
Oh là là, c'est une vaste question.
La philosophie, là.
J'ai combien d'heures pour traiter le sujet ?
Bah écoutez, il vous reste 3 minutes.
Oui, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux qu'on retrouve d'une époque à l'autre. Puis il y a des contingences qui varient suivant les époques. Quand je me repenche sur l'abîme qui nous sépare en termes 50 ans, hein, près de 50 ans par rapport à l'époque qui est évoquée, bon, l'abîme culturel, parce que c'est les États-Unis, c'est San Francisco, c'est un moment très particulier. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une espèce d'errance qui nous caractérise aujourd'hui. La technologie a changé, les sentiments, est-ce qu'ils ont changé tant que ça ? C'est une vaste question, je vous remercie de me l'avoir posée.
Non, et puis il y a un petit côté aussi au jour le jour. On n'a pas le choix, quelque part, de faire autrement que d'être au jour le jour.
Oui, c'est ce qui caractérise notre époque très précise, au moment où nous parlons. C'est l'impression de vivre un jour sans fin, de ne pas avoir de perspective.
D'ailleurs, dans la structuration du récit, une chose que l'on n'a pas dite, c'est que ça se déroule sur une année, mois après mois. On voit tout ça s'égrener, s'écouler au fur et à mesure. Avec ce dessin, vous avez qualifié ce dessin, donc Thierry, de doux. Il est très coloré aussi.
C'est un récit baigné de soleil, baigné de lumière et puis de couleurs, parce que c'est la couleur des vêtements. C'est un regard rétrospectif, donc est-ce qu'on n'embellit pas la réalité ? Est-ce qu'on en garde, par le spectre du souvenir, les aspects les plus chatoyants ? En tout cas, ça fonctionne parfaitement avec ce parti pris.
Je pense que l'auteur d'origine de ce récit, je vais vous laisser le prononcer parce que vous faites beaucoup mieux que moi, Thierry.
J'essaye en tout cas. Amistad Maupin.
Voilà, je pense que lui a ces souvenirs-là. Je doute que les deux autrices de cette adaptation en bande dessinée, elles, aient un âge suffisant pour se souvenir de ce qui se passait à cette époque. Mais en tout cas, tout cela s'entremêle bien et cette adaptation mérite d'être lue. Les chroniques de San Francisco, donc, par Isabelle Beautian et Sandrine Revel, parues chez Steinkiss. C'est un premier tome. On ne sait pas combien il y en aura. En tout cas, moi, je ne sais pas.
Difficile d'estimer a priori. Il y a un grand nombre de romans. Donc, même en adaptant, en redistribuant le texte par rapport aux images, théoriquement, on serait parti pour un certain nombre.
J'ai l'impression.
Oui.
Alors, si vous aimez cette atmosphère-là, eh bien, c'est l'occasion de redécouvrir ces chroniques de San Francisco. Je ne sais pas si elles nous mèneront jusqu'à aujourd'hui. On verra bien. Merci Thierry et à bientôt.